Théologie biblique, Saint Jodard, 84-85, le 7 juin 1985.
Nous allons continuer cette lecture de l'Exode, essayer d'entrer dans ce grand mystère, la construction du veau d'or. Voir comment Aaron se laisse prendre. Moïse apaisa la face de Yahvé, son Dieu, et dit, donc chapitre 32, verset 11, « Pourquoi Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande vigueur et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface du sol? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. » Et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à votre descendance et ils en hériteront à jamais. Yahvé se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Il faut expliquer ça avec le livre du père Miguel, hein, sur Dieu n'a pas d'idée de mal. Hein. Alors, il faudrait mettre ça en parallèle. Hein. C'est des textes extrêmement forts, très intéressants. Tout le mystère des colères de Dieu. Et le mystère de du médiateur par rapport à la colère de Dieu. Vous voyez comment Moïse préfigure Jésus, comment Moïse préfigure Marie, toujours. Cette espèce d'ambivalence qu'il y a dans Moïse. Médiateur, le médiateur par excellence, c'est Jésus, c'est évident. Alors on voit bien comment Moïse préfigure Jésus. Et on voit aussi comment Moïse préfigure Marie. L'autre médiation de surabondance. Ce serait très beau, ça, au point de vue théologique, de comprendre cela. Parce que je vous ai dit, la théologie de la médiation, c'est dans Moïse qu'on doit la découvrir. Hein. C'est là où elle est le plus explicite. Et Moïse, c'est le médiateur, dans le sens où il joue ce rôle très extraordinaire d'apaiser la colère de Dieu. Il reçoit, en premier lieu, cette réaction violente de Yahvé. J'ai vu ce peuple et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux. La colère de Yahvé communiquait à Moïse, en premier lieu. Vous voyez comment il est celui qui le paratonnait. Tout médiateur est un paratonnerre, parce qu'il reçoit en premier lieu la colère de Dieu. Avant qu'elle passe à l'exécution, Dieu se sert d'un médiateur. Et Moïse est là au nom de son peuple pour apaiser Yahvé et punir le peuple. Donc une situation qui est toujours extrêmement difficile. Et pas commode. Alors c'est très beau cette prière de Moïse, hein, cette manière dont Moïse veut apaiser le cœur de Yahvé. Moïse se tourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, tables écrites sur leurs deux côtés, écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu. Alors c'est intéressant parce que je crois que c'est la première fois où l'expression « l'œuvre de Dieu » au Opus Dei. C'est quand même intéressant de voir le premier moment du To Ergon Touteo, l'œuvre de Dieu. Dans Saint Jean, on retrouve l'expression, hein, l'œuvre de Dieu. Et les tables étaient l'œuvre de Dieu. Et ce qui était écrit était écrit de Dieu, gravé sur les tables. Josué entendit la rumeur du peuple avec ses acclamations. Il dit à Moïse, rumeur de guerre au camp. Moïse dit, ce n'est pas une rumeur de chant de victoire, ce n'est pas une rumeur de chant de défaite, c'est une rumeur de chant alterné que j'entends. Chant liturgique. Lors donc qu'il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. Une liturgie dansante, vous voyez bien. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fabriqué, il le brûla par le feu, le pila jusqu'à ce qu'il fût réduit en une poussière qu'il dissémina à la surface de l'eau et il en fit boire aux fils d'Israël. Ils vont être corrigés par leurs propres péchés, en étant obligés de se mettre à boire cette eau dans laquelle la poussière du veau d'or est présente. Alors voyez, ce rôle du médiateur, hein. Moïse aime mieux que son peuple subisse sa colère que la colère de Dieu. Parce que sa colère est une colère qui aura un mode humain. La colère de Dieu aurait été jusqu'au bout. Et c'est le rôle du médiateur, ça. Il sait les mœurs de Dieu. Il veut les apaiser, il en prend toute la responsabilité sur lui et il agit. Et il agit par rapport au peuple de Dieu pour le corriger. C'est une correction. Alors ce qui est beau, c'est cette colère de Dieu et cette colère de Moïse. Je vous dis, il faut faire la théologie de la colère de Dieu. Il faut faire la théologie des colères de Moïse. Parce que Moïse est l'homme le plus doux qui soit au monde. Et la vraie douceur implique de temps en temps des saintes colères. Et là, nous voyons bien cette sainte colère de Moïse. C'est une sainte colère. Mais une sainte colère qui fait qu'il brise l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est brisée parce qu'elle n'est pas digne d'être donnée à ceux qui sont des prévaricateurs. On n'a pas le droit de donner des perles pour sourds. On n'a pas le droit de donner l'œuvre de Dieu à ceux qui ne sont plus de Dieu et qui n'agissent plus comme des enfants de Dieu. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu lui aies fait encourir un grand péché? Aaron dit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est enclin au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. À cause de l'absence de Moïse, absence trop prolongée, il se laisse prendre à leur propre inclination vers le mal. Et le mal ici, c'est d'avoir un droit sur Dieu. On se fait un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui nous obéit. À la place de se référer à Dieu dans l'adoration, ils accaparent. Je leur ai dit, c'est Aaron qui parle, qui a de l'or, ils l'ont arraché de leurs oreilles et me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. Mystère, hein? On l'a jeté dans le feu et sorti. C'est merveilleux l'explication. Hein? Il sent bien qu'il a mal agi. Alors il s'excuse. Hein? Vous voyez toutes les excuses d'Aaron. Il est coincé. Il a obéi au peuple. Il a suivi. Il a suivi. Vous voyez? C'est comme les pasteurs qui suivent le peuple. Pourquoi faites-vous ? Ah, c'est parce que je suis le peuple de Dieu. Ils ont demandé ça, je le fais. C'est exactement ça. Aaron est le premier à avoir fait ça. Et ça l'a conduit jusqu'au bout d'or. En est donnant la petite explication. Cette petite explication. Je leur ai dit qu'il y a de l'or, ils l'ont arraché de leurs oreilles, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Le hasard, le veau est sorti de ça. Moïse vit que le peuple était débridé, car Aaron lui avait lâché la bride, l'exposant à la gouaille de ses agresseurs. C'est très intéressant. Vous voyez, quand un peuple est débridé, parce qu'il n'a plus de bride, quand les pasteurs ne gouvernent plus et se mettent à la suite, alors à ce moment-là, ils sont exposés à la gouaille de ses agresseurs. Moïse se tint à la porte du camp et dit, « Qui est pour Yahvé à moi ?» Tous les fils de Lévi se réunirent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Mettez chacun le glaive à la hanche. Passez, revenez dans le camp de porte en porte et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Ça va vite, hein, la colère de Moïse, comme exécution. Mais voyez, Moïse sauve Lévi. Les fils de Lévi agirent selon la parole de Moïse. Et du peuple, il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Difficile à comprendre théologiquement. La sagesse de Dieu. Le peuple à la nuque raide. Tout est dit là, vous voyez. Et Moïse, en faisant ça, fait miséricorde. Un médiateur extraordinaire. Hein? À la place que tout s'y passe, il y a Lévi. La tribu de Lévi. Ça donne beaucoup à réfléchir, hein, théologiquement. Alors, c'est très facile à dire, on est de l'ancienne alliance, donc c'est la justice qui passe avant tout. Oui, c'est la justice, mais voyez qu'elle est enveloppée de miséricorde. Elle est enveloppée de miséricorde, la miséricorde est présente. Moïse fait œuvre de miséricorde, parce qu'il fait œuvre de médiateur. Moïse dit, recevez aujourd'hui l'investiture pour Yahvé, qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, pour qu'il vous donne aujourd'hui une bénédiction. Or, dès le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis, vous, un grand péché. Mais maintenant, je vais monter vers Yahvé. Peut-être pourrai-je faire l'expiation pour votre péché. Et Moïse retourna auprès d'Yahvé et dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pourtant, si tu as enlevé leur péché, sinon efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Anathème pour ses frères. Ah, c'est la grandeur de Moïse. C'est le médiateur. Le médiateur s'offre pour le salut de ceux dont il est responsable. Et nous voyons ici. Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Yahvé dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, mène le peuple où je t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais au jour de mon châtiment, je les châtirai pour leur péché. Yahvé frappa le peuple parce qu'il avait fabriqué le veau. Celui qui avait fabriqué Aaron. Vous voyez, il faut expliquer, hein, il y a tout ça, c'est très difficile. Hein. Je ne prends pas les interprétations modernes, parce qu'il ne resterait plus grand-chose. Hein. C'est donné comme un fait historique, c'est donné comme une réalité du passage de Yahvé, et en même temps, de, si vous voulez, la première contestation. C'est la contestation extraordinairement forte du peuple de Dieu contre celui que Dieu avait mis à leur tête. Ils contestent le médiateur, ils ne veulent pas contester Dieu, puisqu'ils font le veau d'or qu'ils adorent. Et le veau d'or est comme la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est faux, hein. Mais c'est l'imagination qui fait ça. C'est une illusion. Mais ils contestent Moïse. Ils rejettent Moïse, c'est sûr. Ou plus exactement, ils considèrent que Moïse n'a pas eu à leur égard l'attitude qu'il devait avoir. C'est vraiment une contestation. C'est vraiment une révolte. Une révolte religieuse, si vous voulez. Une révolte. On n'accepte plus d'être dans le désert. Et on veut retourner là où on était, en se servant du veau d'or. Alors vous voyez que par là, on veut montrer la fidélité du peuple de Lévi, de la tribu Lévi. Et ça c'est intéressant. C'est la fidélité. Et c'est pour ça que de fait, Yahvé va le bénir d'une façon spéciale. Tous les fils de Lévi se réunirent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël, mettez chacun. Bon, ils doivent obéir en acceptant de tuer qui son frère, qui son ami, qui son proche. Et Moïse dit, recevez aujourd'hui l'investiture pour Yahvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soyez à partir d'aujourd'hui directement sous la dépendance de Yahvé. C'est cette investiture pour Yahvé. Qui au prix de son fils, qui au prix de son frère, parce qu'il a osé, parce qu'il a accepté de sacrifier son fils, accepté de sacrifier son frère, pour obéir à Yahvé, dans l'obéissance. Et donc il y a une récompense particulière, une bénédiction particulière du peuple de Lévi. Il est béni par cet acte héroïque demandé par Moïse, ce carnage sacré. C'est un très grand mystère, ça. Il faut essayer de le comprendre, hein, de l'intérieur. On ne peut pas l'imiter, c'est inimitable. Mais ça fait comprendre, vous voyez, ce qu'est le médiateur. Il porte sur lui la responsabilité de son peuple. Et il se présente à Yahvé comme le seul responsable, hein, puisqu'il demande à Yahvé de disparaître. Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Alors, souligner, parce que c'est ça qu'il faut faire au point de vue théologique, tout ce qui nous est dit de Moïse dans son activité à l'égard de Dieu, dans son activité à l'égard du peuple. Et ceci nous fait comprendre ce que représente ce médiateur, préfiguration du Christ dans son sacerdoce, le médiateur par excellence. Yahvé parla à Moïse, va, monte d'ici, toi, et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte vers le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, à ta descendance je le donnerai. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Périsites, les Hivites et les Ébouséens. Je te ferai entrer dans un pays ruisselant de lait. Vous voyez, ça, c'est les traditions diverses qui se trouvent réunies ici. On voit très bien, il y a des répétitions, des reprises avec des explications particulières. Je te ferai entrer dans un pays ruisselant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide. Sinon, je t'exterminerai en chemin. En entendant cette mauvaise parole, le peuple prit le deuil, et personne ne mit plus ses parures. Tu vois, ses parures ont disparu déjà dans le veau. Il faut les expliquer. Alors, il y a deux explications, il y a deux passages. C'est évident qu'il y a deux passages très différents, je comprends très bien. Pour un exégète pur, au point de vue historique, c'est très gênant, c'est pas commun du tout. C'est le même fait, mais deux motifs différents. Alors, toujours la même question. Hein. C'est très bien, exégétiquement, de dire il y a deux sources. Voilà. Très, très bien. C'est évident. Il y a deux sources. Pourquoi deux sources? Je crois que c'est la question qu'on doit se poser. Alors, ça, c'est plus de l'exégèse, c'est de la théologie. Pourquoi Dieu donne-t-il deux récits de la création? Pourquoi Dieu donne-t-il deux conclusions à l'évangile de Saint Jean? Pourquoi Dieu aime-t-il, à travers l'Exode, de nous donner deux sources? Alors la source Yavis, la source Eloïse, très bien, deux étiquettes, ça n'explique rien du tout. Vous comprenez ça, c'est le fait, c'est le positivisme, c'est le fait. Et pourquoi Dieu fait ça? Je crois que c'est ça qu'on doit se poser comme question, au point de vue théologique. Parce que, vous pourriez dire, évidemment, c'est une œuvre très imparfaite. Hein. C'est fait de pièces et morceaux. Deux récits, on va les coller les uns à côté des autres, et Saint-Esprit fait ça pour donner du travail aux exégètes, pour qu'ils ne soient pas au chômage. Hein. Alors il donne du travail aux exégètes par là. C'est sûrement pas pour ça que Saint-Esprit le fait. C'est sûrement pas pour ça. Alors c'est pourquoi? Il y a sûrement une raison. C'est une œuvre de Dieu. Si les tables de la loi sont l'œuvre de Dieu, toute l'écriture est l'œuvre de Dieu. Si c'est l'œuvre de Dieu, c'est toujours, comme toute œuvre de Dieu, c'est fait avec mesure, poids et ordre. Il faut donc chercher le pourquoi. Il y a sûrement un pourquoi. Et les deux récits de la Genèse, on comprend. Parce qu'il y a la parole et le geste. Ici. Il faut essayer de comprendre. Et moi, je crois que c'est ça qu'on doit se poser la question. Et dire non, ça ne sert à rien de chercher le pourquoi. Je crois que c'est un manque d'amour à l'égard de la parole de Dieu. Ou c'est une attitude critique qui considère la parole de Dieu exactement comme n'importe quel autre livre. Quand il s'agit de la parole de Dieu, je n'ai pas le droit de me dire ça n'a pas d'importance. Ça a sûrement une importance. Alors, posez-vous la question au moins, hein. Je ne la résous pas, parce que si on la résout trop vite, on ne voit pas. Il faut la résoudre lentement. Mais il faut se la poser, parce que je suis persuadé que il y a une raison pour laquelle l'Esprit Saint réunit des traditions diverses. En entendant cette mauvaise parole, le peuple prit le deuil, et personne ne mit plus cette parure. Elles sont disparues. Yahvé dit à Moïse, dit aux fils d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerai. Maintenant donc, dépose tes parures et que je sache ce que j'ai à te faire. Les fils d'Israël se défier de leur parure à partir du mont Horeb. Il faut expliquer pourquoi le deuil. Moïse prenait la tente et la tendait pour lui hors du camp, loin du camp. Il l'appelait tente de la rencontre. Vous voyez qu'à partir de chacun de ces épisodes, il y a comme des précisions qui se font dans le gouvernement de Dieu. Des précisions. Le gouvernement de Dieu se précise de plus en plus. Autrement dit, il y a des intermédiaires que Dieu fonde. Eh bien ici, il y a la tente de la rencontre. Moïse prenait la tente et la tendait pour lui hors du camp. Loin du camp. Pourquoi ? Avant, c'était pas loin du camp, c'était dans le camp. Et maintenant, c'est hors du camp. C'est loin du camp. Il l'appelait tente de la rencontre. Quiconque cherchait Yahvé sortait vers la tente de la rencontre, qui était hors du camp. Il est dit qu'Yahvé ne peut plus être au milieu de son peuple. Parce que si Yahvé était au milieu de son peuple, il l'exterminerait. Et le poids du péché met une distance. Ça écarte Dieu. Alors Dieu continue d'être présent, la tente de rencontre. Dieu continue. Mais il faut comme un sacrement de la présence. Et le sacrement de la présence est exigé en cause de la distance. Dieu ne peut plus être au milieu de son peuple. C'est très curieux au point de vue du gouvernement divin, au point de vue de l'économie divine, la manière dont Dieu conduit. C'est ça qui m'intéresse. Et lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait debout à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente. Et Yahvé parlait avec Moïse. À la vue de la colonne de nuée qui se tenait à la porte de la tente, tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Eh bien, présence de Yahvé. Une présence de Yahvé beaucoup plus solennelle, beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël n'a pas compris la majesté de Dieu. Et donc Dieu va lui enseigner la grandeur de sa présence et de sa majesté. Alors, c'est montré, ça, les distances, hein. Yahvé parlait à Moïse. Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Et son auxiliaire Josué, fils de Naoum, un jeune homme, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un là, présent à la présence de Yahvé. Je crois que c'est très très important la question du veau d'or, vous voyez. C'est sûrement un grand, grand événement. Et toutes les conséquences du veau, par rapport au veau d'or, hein, toutes les conséquences, l'attitude différente de Yahvé. Moïse dit à Yahvé, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, mais toi, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi ? Et c'est toi qui as dit, je te connais par ton nom. Et même, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant donc, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies, pour que je te connaisse, afin de trouver grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton. L'imploration de Moïse pour être plus proche de Yahvé, pour être plus reconnu d'Yahvé. Alors, il rappelle, hein, je te connais par ton nom, et même, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors, Moïse reprend tous ces titres, si j'ose dire, ce lien particulier, cette alliance particulière qu'il y a avec Yahvé. Maintenant donc, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies pour que je te connaisse afin de trouver grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Yahvé dit, ma face ira et je te procurerai le repos. Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Mais à quoi donc saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas ce que tu iras avec nous? Mais serons-nous distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface du sol? Il avait dit à Moïse, même cette chose que tu as dite, je la ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Vous voyez donc que la faute du peuple permet une nouvelle intimité de Moïse avec Yahvé. Dieu peut permettre un tel égarement pour une unité plus profonde avec son élu. Évidemment, ça, c'est pas la justice, hein. C'est une miséricorde qui se sert du mal pour un plus grand bien. Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Moïse peut le dire. Il a une intimité nouvelle avec Yahvé. Il y a quelque chose de nouveau. Il vit en sa présence. Même cette chose que tu as dite, je la ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi, je te prie, voir ta gloire. Ça, c'est toujours le grand désir. La béatitude, voir la gloire de Dieu. C'est Moïse qui exprime le désir de béatitude, ce désir de voir Dieu. Ce désir de voir la gloire de Dieu. Il avait dit, je vais faire passer toute ma beauté près de toi. Et je prononcerai le nom de Yahvé devant toi. Et je ferai grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Yahvé dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras debout sur le rocher. Et quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face, on ne peut la voir. Ça, c'est un passage très, très connu, très grand. Et qui est interprété tout le temps au point de vue mystique. C'est l'intimité nouvelle de Moïse avec Yahvé. Moïse réclame la gloire de Dieu, voir la gloire de Dieu. L'intimité de Moïse avec Yahvé est telle que Moïse peut demander ça. Il demande à voir la gloire de Dieu. Et mettez ça en parallèle, si vous voulez, avec la demande de Jésus, Père, glorifie ton Fils pour qu'il glorifie ton Fils. C'est préfiguratif, c'est lointain, mais c'est quand même le mystère de la gloire. Et là, Yahvé répond, je veux faire passer toute ma beauté devant toi. Alors, beauté et gloire, hein, les deux se tiennent. C'est pas tout à fait la même chose. Et je prononcerai le nom de Yahvé devant toi. Et je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Sur la terre, on ne peut pas voir la face de Dieu. Voir la face de Dieu, on mourrait. Ce serait le rapt d'amour, tel qu'on mourrait. C'est-à-dire que l'âme serait séparée du corps. Et alors, c'est là la sollicitude pleine de miséricorde. Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras debout sur le rocher. Et quand je passerai, et quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai ma main jusqu'à ce que je sois passé. C'est une magnifique annonciation, hein. C'est une annonciation étonnante. C'est être dans le creux du rocher. Pour être tout proche, sans voir la gloire, mais en étant soutenu par la puissance, par la main. Puis je dirai ma main et tu me verras de dos. Pas voir la face de Dieu, mais on peut voir Dieu de dos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, voir de Dieu de dos? Ça veut dire marcher à ses suites. Suivre l'agneau partout où il va. C'est accepter de marcher à ses suites. Donc, c'est la foi. C'est être relatif à quelqu'un et être porté par l'espérance, la main. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les trois, là. Pour nous faire comprendre comment nous devons vivre de cet appel de Dieu. Yahvé dit à Moïse, traite taille pour toi, deux tailles, deux tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin. Tu monteras le matin au mont Sinaï. Et tu te tiendras là pour moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse dans toute la montagne, que le bétail même, petit et gros, ne pèse pas du côté de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre, comme les premières. Puis Moïse se leva de grand matin, monta au mont Sinaï, selon ce qui lui avait été commandé, ce lui avait commandé Yahvé, et il prit en sa main les deux tables de pierre. Yahvé descendit dans la nuée, et Moïse se mit là avec lui, et il invoqua le nom de Yahvé. Yahvé passa devant lui et cria, Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en fidélité et loyauté, qui garde fidélité à des milliers, qui supporte faute, forfait et péché, mais ne laisse rien impuni, châtiant la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils et sur les fils des fils. Sur la troisième et sur la quatrième génération. Moïse, en toute hâte, s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, daigne le Seigneur marcher au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pleureras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton héritage. » Une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle se fait justement d'une façon très particulière, puisqu'à la fois il y a une punition et bien quelque chose de plus. Alors remarquez là aussi cette chose curieuse, cette chose très curieuse. Hein. Les premières tables de la loi ont été brisées par la colère. Qu'est-ce que ça représente? Et les secondes tables de la loi, Dieu demande le concours de Moïse. Les premières ont été données dans une gratuité absolue et les secondes impliquent le concours, la coopération. Ce n'est pas donné de la même façon. Alors qu'est-ce que ça représente? Première alliance, deuxième alliance, hein. Première alliance donnée dans une gratuité où Dieu fait tout. Seconde alliance où Dieu attend le concours de l'homme. Ça c'est sûr. Dans la seconde alliance, Dieu attend beaucoup plus le concours de l'homme que dans l'ancienne alliance. Et c'est exprimé bien par ces tables de la loi que Moïse doit lui-même tailler. Et il y a le concours de Dieu. Tandis que dans la première alliance, c'est de la gratuité pure, ça c'est sûr. On peut dire ça. Hein. Et la première alliance s'achève, elle est brisée, l'état de la loi, par la colère de Dieu. Et c'est vrai, le mystère de la mort du Christ. L'état brisé par la colère de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est curieux parce qu'on trouve le même terme, l'œuvre de Dieu, pour le mystère de la croix. Pour saint Jean, la croix, c'est l'œuvre de Dieu. Et les tables de la loi sont l'œuvre de Dieu. Et les tables de la loi sont brisées. Et à la croix, le Christ est brisé. Le coup de lance. C'est la brisure de celui qui est plus que les tables de la loi, qui est plus que la loi, qui est une loi vivante. Il faut qu'il soit brisé à cause des péchés de l'humanité. Et les tables de la loi sont brisées à cause des péchés de l'humanité, à cause des péchés du peuple d'Israël. Et la seconde alliance, alors, est une alliance toute intérieure. Et parce que c'est une seconde alliance toute intérieure, elle exige le concours des amis. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais des amis. Vous voyez, Moïse fait bien ce lien, il y a tout cela qui est présent. Toujours ce double langage constant dans l'Ancienne Alliance. Hein. Préfiguration du mystère du Christ. La première alliance, préfiguration de la seconde alliance. Et quand de fait il y a ces deux alliances qui suivent, il y a là quelque chose qui pour nous est très important. Que nous comprenions mieux, hein, c'est toujours le mystère de la croix qui est la clé. Et alors, l'annonce de ce mystère de la croix. Et on peut dire que là, il y a une annonce du mystère de la croix très, très mystérieuse du côté des colères de Dieu et du côté de la justice. Yahvé passa devant lui et dit, alors ça c'est Dieu qui s'exprime pour nous, alors c'est cette contemplation plus intime de Dieu, alors voyez bien tous les attributs, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en fidélité et loyauté, qui garde fidélité à des milliers, qui supportent faute, forfait et péché, et ne laisse rien impunir. Une miséricorde infinie qui assume la justice. Et c'est bien ce que nous disons quand nous parlons du mystère de la croix, c'est bien cette révélation que saint Thomas souligne, toutes les œuvres de Dieu impliquent miséricorde et justice. Mais ne laisse rien impunir. Châtiant la faute des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. Ça, c'est plus vrai. Hein. Comprenons bien. Mais c'est vrai, dans l'Ancienne Alliance pour nous faire comprendre comment Jésus a porté lui radicalement sur tout, qu'à partir de lui, c'est le nouvel Adam. Moïse, en toute hâte, s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il dit, « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, daigne le Seigneur marcher au milieu de nous, car c'est son peuple à la nucrède. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton héritage. » Notre faute, hein, comme Moïse prend ça sur lui, notre péché. Il avait dit, « Voici que moi, je vais conclure une alliance. Devant tout le peuple, je ferai des merveilles qui n'ont été produites dans aucun pays, ni dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu te trouves verra l'œuvre de Yahvé. Car terrible est ce que je vais faire avec toi. Prends garde à ce que je te commande aujourd'hui. Voici que je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Perizzites, etc. Garde-toi de conclure alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. Au contraire, leurs autels, vous les abattrez, leurs stèles, vous les briserez, leurs pieux sacrés, vous les couperez. Ce n'est pas un moyen d'attirer hein, beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez l'œcuménisme hein, de l'Ancien Testament. C'est particulier, c'est spécial. Il faut saisir ce que ça représente. Encore une fois, hein, l'Ancien Testament ne nous donne aucun principe au sens absolu. C'est de l'ordre de la disposition. Et c'est très important de comprendre ça. Tout à fait moderne, la vision inverse. Hein. C'est tout à fait moderne. Et c'est une des grandes confusions modernes. Vous savez bien. C'est la confusion de certains théologiens protestants, surtout allemands, qui disent que les prophéties de l'ancienne alliance ne sont pas totalement réalisées dans le Christ, donc elles demeurent pour l'Église. Toute une vision ecclésiologique qui est très différente. Notre vision ecclésiologique, elle vient directement du Christ. Et le Christ renouvelle tout. Et toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont réalisées dans le Christ. Tandis qu'au contraire, cette vision hegélienne, parce que c'est à partir de Hegel qui dit ça, cette vision hegélienne consiste à dire les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas toutes réalisées dans le Christ, donc elles continuent d'exister pour l'Église. Et par le fait même, nous ne pouvons pas faire une ecclésiologie sans regarder ces prophéties de l'Ancien Testament. Ça va très loin comme perspective. Alors vous voyez, la place du peuple d'Israël est très différente dans les deux façons de voir. Et ce serait très intéressant de voir cela. Alors, je ne fais que souligner, parce que ce n'est pas directement notre sujet, mais ça touche ces choses-là. Hein. Garde-toi de conclure alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. Au contraire, leurs autels, vous les abattrez, leurs stèles, vous les briserez, et leurs pieux sacrés, vous les couperez. Car tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Yahvé, en effet, a pour nom jaloux. C'est un Dieu jaloux. Alors, c'est au nom de la jalousie de Dieu que le peuple d'Israël n'a pas le droit de conclure alliance avec d'autres. Et ceci après la prévarication du veau d'or, après l'adultère du veau d'or. Dieu exige d'aller plus loin. Et on comprend, ils ont fait une alliance avec l'Égypte dans le fond de leur cœur jusqu'au point de vue religieux, le veau d'or. une réminiscence égyptienne. Alors, c'est ces choses-là de supprimer pour que, de fait, ils gardent leur foi toute pure et leur adoration toute pure. Au contraire, leurs autels, vous les abattrez, leurs stèles, vous les briserez, leurs pieux sacrés, vous les couperez. Faites ceci, vous voyez, faites l'application, si vous voulez, avec les idéologies modernes. Vous comprenez ? Car tu ne te prosterneras plus devant un autre Dieu. Yahvé, en effet, a pour nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ça a déjà été dit à Moïse. Et donc c'est repris ici. Mais c'est repris, j'allais dire, pour tout le peuple. Et pas seulement pour une personne. Donc c'est d'abord révélation à une personne, puis après pour tout le peuple. Ne conclut pas alliance avec les hommes du pays, de peur qu'ils ne t'invitent quand ils se prostituent à la suite de leur Dieu et leur sacrifient, et que tu ne manges de leur sacrifice, de peur aussi que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, en se prostituant à la suite de leur Dieu, ne fasse prostituer tes fils à la suite de leur Dieu. Pas de mariage mixte. C'est ça. Pas d'alliance au niveau du mariage, parce que les filles, alors, feront que les fils adoreront leur Dieu. De peur que ne fasse prostituer tes fils à la suite de leur Dieu. Tu ne te feras pas des dieux de métal fondu. Tu observeras la fête des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes, comme je te l'ai commandé au temps fixé du mois d'Abib. Car c'est dans le mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout être sorti le premier du sein est à moi. Tout mâle de son troupeau, premier-né de vaches ou de brebis. L'âne sorti le premier du sein, tu ne le libéreras pas, tu le libéreras par une tête de menu bétail, que si tu ne le libères pas, tu lui briseras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le libéreras. C'est le gilet de la libération, oui. Et on ne paraîtra pas devant moi les mains vides. Alors ça, c'est une reprise, on reprend tout ici, pour montrer qu'à partir de ce moment, le gouvernement de Dieu sur son peuple se précise. Pendant 6 jours, tu œuvreras, mais le 7e jour, tu chômeras, même au temps des labours et de la moisson et du chaud, et tu chômeras. Ça, c'est très important. Tu célébreras aussi la fête des semaines, des premiers fruits de la moisson des blés, puis la fête de la récolte au tournant de l'année. 3 fois dans l'année, toute la population mâle paraîtra devant le Seigneur Yahvé, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai ton territoire, et nul ne convoitera ton pays quand tu monteras pour paraître devant Yahvé, ton Dieu, 3 fois dans l'année. Tu n'immoleras pas avec du pain levé le sang de ma victime. Et la victime de la fête de Pâques ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison d'Yahvé, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Vous voyez, toutes ces prescriptions, il y en a à la fois qui sont des prescriptions très curieuse, alimentaire, qui sont mises à côté d'autres, les unes à côté des autres, il n'y a pas beaucoup d'ordre de sagesse. On est dans l'ordre de la disposition. Il ne faut pas l'oublier. Et Dieu veut nous faire comprendre cela. Ce n'est pas l'ordre de la sagesse. C'est l'ordre dans un devenir, dans une préparation. Tout le peuple d'Israël est tendu vers. C'est pour ça que c'est l'ordre de la disposition. Il n'y a pas de principe. C'est de l'ordre de la disposition. C'est pour ça que le retour à l'Ancien Testament supprime tout. Luther est retourné à l'Ancien Testament. Beaucoup aujourd'hui retournent à l'Ancien Testament. Et ce retour supprime tout. Parce qu'il y a l'ordre de la sagesse disparaît et on retourne dans un ordre de disposition. Alors évidemment, ça va beaucoup mieux d'appliquer l'hégélianisme. Yahvé dit à Moïse, écris pour toi ces paroles. C'est en effet conformément à ces paroles que je conclus alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec Yahvé 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Et quand Moïse descendit du mont Sinaï, Moïse avait dans sa main les 2 tables du témoignage quand il descendit du mont Sinaï. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait d'avoir parlé avec lui. C'est merveilleux d'être le reflet d'Yahvé devant. Et Moïse devient le reflet de la vie. Vous voyez, pour la gloire du Christ, c'est la gloire du sacerdoce du Christ, c'est la gloire qui est préfigurée, c'est la gloire du médiateur, c'est celui qui vit avec Dieu, et donc il est un reflet de la gloire de Dieu. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait d'avoir parlé avec lui. Quand Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, voilà que rayonnait la peau de son visage. Et ils eurent peur de s'avancer vers lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté revinrent alors vers lui. Et Moïse leur parla. Après quoi tous les fils d'Israël s'avancèrent et il leur commanda tout ce dont avait parlé avec lui Yahvé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut achevé de parler avec eux, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant Yahvé pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Puis il sortait et disait aux fils d'Israël ce qui lui avait été commandé. Les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse qui rayonnait, la peau du visage de Moïse. Moïse ramenait alors le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Et cette métamorphose de Moïse, cette transformation de Moïse, après ces 40 jours, je crois que j'ai tout le mystère du médiateur qui nous est montré là. Alors c'est très grand. Quand vous voyez le Christ derrière, quand vous voyez Marie derrière, vous pouvez voir l'un et l'autre. C'est très grand, c'est très beau, c'est cette dignité extraordinaire. La grandeur de Moïse. C'est pas étonnant, comme les théologiens du Moyen-Âge disaient que Moïse avait eu la vision béatifique, Permandum transiuntis. À cause de ces textes qui sont si forts et qui font que Moïse a été complètement transformé par la présence de Dieu, par la présence de Yahvé, et est transformé pour son peuple, pour refaire l'unité. Il refait l'unité. Il y a eu la division, la diaspora, il y a eu la division qui s'est faite. On a voulu faire l'unité autour du veau d'or. Ça a été brisé. Et l'unité s'est faite autour du visage rayonnant de Moïse, reflet de la gloire de Dieu.